Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Bonsoir à tous. Les affaires Quatennens, Bayou, Dupond-Moretti, Kohler se sont logiquement invitées lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale cet après-midi. Alors, on fait la leçon, on s'indigne, on applaudit, on reste assis, on tente des happenings. L'hémicycle est-il un haut lieu de démagogie ou un reflet objectif de la société française? Question posée ce soir à Louis Osalter, journaliste à Marianne, à la constitutionnaliste Anne-Charlène Bézina et Guylaine Hautenemer, rédactrice en chef de Challenge. Ils nous rejoignent juste après le journal d'Hélène Zélani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous.
Un Nobel de physique pour un trio de chercheurs, dont un Français, Alain Aspect. Ils sont récompensés pour des travaux révolutionnaires sur la mécanique quantique.
Oui, on va vous en dire plus sur ce Nobel français. Loin de la physique quantique, mais très électrique, les débats aujourd'hui à l'Assemblée. Une séance de questions au gouvernement marquée par des invectives diverses et variées. Dans ce journal, enfin un chargeur universel pour tous les smartphones, l'Arabie Saoudite qui va organiser des Jeux asiatiques d'hiver dans le désert, et puis le match OM Sporting Portugal qui se joue à huis clos au Vélodrome, coup d'envoi avec un peu de retard, le bus portugais était coincé dans les embouteillages.
La tendance météo, bonsoir Marlène Duré.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Alors un pull le matin, un t-shirt l'après-midi, en tout cas sur une grande partie du pays, puisque Météo France prévoit 25 à 29 degrés dans de nombreux départements, 29-30 plutôt dans le sud-ouest. Du soleil généreux, peut-être toujours un peu plus variable au nord-ouest, avec même quelques pluies. On en reparle à la fin du journal.
À tout à l'heure, Marlène.
Europe 1.
Si on vous parle de l'intrication quantique, ça risque de ne pas vous évoquer grand-chose. Et pourtant, le Nobel de physique récompense trois chercheurs pour leurs travaux sur ce thème.
Oui, un Américain, un Autrichien et cocorico, un Français, Alain Aspect, 75 ans, affilié à l'Université de Paris-Saclay et Polytechnique. L'intrication quantique, c'est un lien inextricable entre deux particules, quelle que soit la distance qui les sépare. Il y a quelques minutes, il a pris la parole, très ému, depuis l'université de Saclay, Thibault.
Oui, Alain Aspect est arrivé derrière son pupitre, les yeux humides. Il y avait aussi beaucoup d'émotion dans l'amphithéâtre quand il s'est exprimé face à de nombreux étudiants et à Sylvie Retailleau, la ministre de la Recherche. Le lauréat, veste grise, chemise bleue, a notamment remercié tous les professeurs qu'il a croisés en cours. Il s'est appliqué à revenir sur sa découverte, sur ce qu'on appelle l'intrication quantique et le comportement des particules. Écoutez.
Deux photons ont été émis par le même atome, donc il y a une sorte d'interaction au départ. Ensuite, ils n'ont plus d'interaction. Mais ils vont garder le souvenir de cette interaction, un souvenir tellement fort que l'objet constitué de ces deux photons est un objet unique. On ne peut pas imaginer que c'est la somme des propriétés du premier photon plus les propriétés du second.
Voilà une importante avancée pour la recherche, saluée aussi par la présidente de l'Université de Paris-Saclay, des travaux qui feront avancer notamment la cryptographie de données numériques ou la puissance et la précision des supercalculateurs.
Thibaut Hu en direct de Saclay. Pour la petite histoire, Alain Aspect est, selon son coloréat autrichien, un bon vivant qui peut vous raconter ses recettes de foie gras. Et il a une cave à vin incroyable.
Autre salle, autre ambiance. La traditionnelle séance de questions au gouvernement a viré au pugilat cet après-midi.
Oui, c'était prévisible. Les députés se sont retrouvés dans l'hémicycle et le ton est très vite monté. Majorité et opposition se renvoyant coup pour coup. Le tout dans une ambiance explosive, Alexis de la Fontaine.
Oui, la séance à peine ouverte. Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance, vise la NUP sur l'affaire Adrien Quatennens.
Depuis plusieurs semaines, on entend ceux qui parlent de leur affection pour un homme qui frappe sa femme. Alors oui, oui, nous devons faire mieux. Et ça commence par nos attitudes. Ça commence par les mots que nous employons. Ça commence par le fait de respecter les victimes.
Applaudissements unanimes dans les rangs de la majorité durant de longues minutes. À gauche, les mines se crispent. Sandrine Rousseau se lève et joint ses deux mains pour former un utérus, un symbole féministe. À ses côtés, Daniel Obono s'emporte jusqu'à écoper d'un rappel à l'ordre, un comportement qu'elle tente de justifier à la sortie.
Tout ça, c'est même pas du cinéma. Ça montre à quel point ils n'en ont rien à faire, en fait, de cette question. Pour eux, c'est un outil de communication. Nous nous sommes engagés dans ces luttes depuis des années. J'espère que tout le monde a vu la manipulation extrêmement indécente de Madame Berger.
Pendant ce temps, le socialiste Boris Vallaud interroge Elisabeth Borne sur la présence du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, renvoyé devant la Cour de justice de la République. Une question inappropriée selon la Première ministre.
Je ne crois pas qu'il soit démocratiquement sain que des décisions de l'autorité judiciaire soient commentées ici, dans l'enceinte du pouvoir législatif, par un membre de l'exécutif.
Ici, il aura fallu attendre près de 2 heures pour que les esprits finissent par s'apaiser.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1, cette séance houleuse à l'Assemblée nationale, nous y revenons après le journal d'Hélène Zélani. Nous évoquerons d'ailleurs également ce retour sur les bancs du Palais Bourbon, celui de Julien Bayou, désormais ancien secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts.
Oui, il faisait donc son retour politique cet après-midi. Il y a 2 semaines, Sandrine Rousseau l'accusait de violence psychologique sur son ex-compagne. C'était à la télé sur le plateau de C'est à vous sur France 5, provoquant sa démission. Aujourd'hui, Julien Bayou contre-attaque dans une interview au journal Le Monde. Alexandre Chauveau, pour lui, Sandrine Rousseau est allée trop loin.
Oui, et Julien Bayou dénonce le macartisme de celle qui avait déclenché l'affaire il y a 2 semaines, tout en rappelant son attachement au féminisme, un féminisme dévoyé par Sandrine Rousseau, selon ses termes. Il parle d'un procès kafkaïen, il n'y a pas d'accusation, je ne peux pas m'en défendre et pourtant je suis présumé coupable, dit l'ancien président d'Europe Écologie Les Verts. Le député de Paris revient également sur le fonctionnement de la cellule d'écoute interne à son parti et dont il avait lui-même validé le fonctionnement en février dernier. L'élu justifie son existence par la défaillance de la justice, mais regrette que cette cellule se soit substituée au droit. Et puis, politiquement, enfin, Julien Bayou appelle à une clarification pour le congrès d'Europe Écologie Les Verts en décembre. Nous devons dire quelle écologie nous voulons, excommunier ou rassembler, déclare-t-il dans un dernier tacle à Sandrine Rousseau.
Et ce soir, Alexandre, Julien Bayou s'exprimera dans C'est à vous, là où tout a commencé.
Europe 1, vous dévoilez l'information à la mi-journée. 6 femmes de l'entourage de la famille Mera ont été arrêtées à Toulouse et Albi.
Oui, elles sont d'ailleurs toujours en garde à vue ce soir. Des femmes soupçonnées d'avoir séjourné en Syrie en 2013 et 2014. C'est une enquête ouverte par le parquet national antiterroriste. Quel est leur profil, William Molinier ?
Eh bien, elles sont âgées de 31 à 43 ans. 5 d'entre elles ont été interpellées à leur domicile. Une autre s'est présentée dans la matinée au commissariat. Il s'agit de femmes qui gravitent autour de la famille de Mohamed Mera. Plusieurs sont présentées comme des profils sensibles appartenant à ce qu'on a appelé la galaxie Mera. Selon nos informations, ces femmes sont suspectées d'être parties avec leurs enfants en Syrie entre 2013 et 2014 avant de revenir en France. Une enquête avait alors été ouverte. Certaines d'entre elles avaient été placées en garde à vue contestant leur séjour en Syrie. Pas de preuves, elles avaient alors été libérées, toutes sans poursuite. Mais récemment, les policiers de la sous-direction antiterroriste ont relancé l'enquête avec des mises sur écoute, des filatures. Et ils auraient aujourd'hui suffisamment d'éléments pour prouver qu'elles ont bien été sur zone avec leurs enfants, d'où leur placement en garde à vue. Par ailleurs, au moins l'une d'entre elles est soupçonnée d'avoir aidé la sœur de Mohamed Mera à partir en 2014 en Syrie, Souad Mera, qui aurait ensuite rejoint l'Algérie où elle se trouverait encore aujourd'hui.
Et puis on apprend qu'une franco-marocaine et ses 2 enfants ont été rapatriés hier en France. Ils étaient retenus dans un camp en Syrie.
Restez avec nous dans un instant sur Europe 1. Enfin, un chargeur universel pour tous les smartphones, mais aussi les tablettes et autres appareils électroniques. Ce sera mis en place en principe d'ici 1 an. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe Soir, 19h, 20h. Raphaël Delvolvé.
Merci d'être avec nous sur Europe 1, la suite du journal d'Hélène Zélani, qui n'a pas chez lui le fameux tiroir à chargeur avec d'innombrables fils orphelins.
Moi j'ai, mais ça va changer. Le chargeur universel va donc devenir obligatoire dans l'Union européenne. Ainsi en ont décidé les députés du Parlement de Strasbourg, un camouflet pour Apple, Louis Salé.
Oui, cette mesure avait été critiquée par la marque californienne qui l'a jugée néfaste pour l'innovation. Mais ces lobbyistes ont perdu la bataille. Elle avait d'ailleurs débuté sous la présidence française de l'Union européenne. Et celui qui a été choisi, eh bien, c'est le chargeur USB-C qui existe déjà dans le commerce. Toutes les marques devront l'adopter pour leurs tablettes, leurs casques, leurs appareils photo, leurs souris ou encore leurs enceintes. Le grand avantage de cette mesure, quel est-il ? Eh bien, il est double. Évitez tout d'abord d'acheter un chargeur à chaque nouvel appareil électronique, ce qui limite la production pollution en amont et en aval, eh bien cela évitera près de 11 000 tonnes de déchets chaque année. Moins de chargeurs seront en circulation et le recyclage de ces produits pourra davantage se développer. L'Europe laisse encore 2 ans aux entreprises pour s'adapter, mais à l'automne 2024, seul le chargeur USB-C pourra être commercialisé. Et en 2026, eh bien, il deviendra également obligatoire pour les ordinateurs portables.
Donc les premiers changements, c'est d'ici un an.
Là, on va parler de 2029. Dans 7 ans, donc, l'Arabie Saoudite organisera les Jeux asiatiques d'hiver.
Oui, vous avez bien entendu, des Jeux d'hiver avec du ski, du snowboard, du hockey sur glace ou encore du patinage artistique dans le désert saoudien. Forcément, en pleine polémique sur le mondial de foot au Qatar, la nouvelle a de quoi surprendre. Les épreuves se dérouleraient dans une ville futuriste qui n'est pas encore construite, Axel May.
Oui, alors l'annonce a d'abord été faite par le Conseil olympique d'Asie, émanation régionale du CIO, le comité international, et je vous lis le communiqué. Le désert et la montagne d'Arabie Saoudite seront bientôt un terrain de jeu pour les sports d'hiver. Au moment de cette annonce, le français Michel Vion, secrétaire général de la Fédération internationale de ski, était en réunion de travail. Écoutez sa réaction au téléphone d'Europe 1.
D'abord un peu surpris parce qu'on est au courant de rien. La Confédération asiatique, c'est plusieurs pays, le Japon, la Chine, la Corée. Ils décident ça un peu tout seul. Après, bon, les commentaires par rapport au site, j'ai entendu et lu que c'était un site montagneux néanmoins, avec des vraies pistes de ski, avec des chutes de neige naturelles. Mais sans connaître le site, je crois qu'il faut se garder de trop commenter pour l'instant. Mais effectivement, c'est un peu surprenant.
Voilà, un peu surprenant, dit Michel Vion. Alors en fait, le site figure, et vous l'avez dit Hélène, au cœur d'un projet futuriste, un brin mégalo porté par le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. Ce site se situe entre les bords de la mer Rouge et la Jordanie, où il y a effectivement des montagnes et où effectivement il peut faire très froid. Et Mohamed Ben Salman veut donc créer une ville ultra moderne et accueillir, parce qu'on le sait, il a fait du sport une arme géopolitique, les Jeux d'Asie d'hiver en 2029.
Et puis Axel, à propos du mondial de foot, la ville de Paris n'installera ni fan zone ni écran géant. La capitale rejoint plusieurs villes qui ont pris la même décision, Bordeaux, Lille, Strasbourg ou Marseille.
Ah bah oui, Marseille, transition toute trouvée. On part justement sur la Canebière pour la 3e journée de la Ligue des champions de football.
L'OM affronte en effet le Sporting Portugal depuis environ un quart d'heure. Match à huis clos qui a commencé avec un peu de retard. Vous êtes au stade Vélodrome, Jean-François Pérez. Déjà défait 2 fois, les Marseillais n'ont plus droit à l'erreur, mais ça commence mal.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors vous entendez déjà sans doute un petit peu de public derrière nous. Il faut savoir que pour les matchs de Ligue des Champions, chaque club a droit à quelques centaines d'invités. Donc on va dire que sur un stade de 65 000, on a à peu près, on va dire un petit millier ce soir pour ce match entre l'OM et le Sporting Portugal. Sachez en effet que l'Olympique de Marseille est déjà mené 1-0. On joue depuis 7 minutes parce que le retard s'est ajouté au retard tout à l'heure. On a démarré ce match à 19h07, très exactement au lieu des 18h45 prévu. Et donc dès la 52e seconde, c'est Francisco Trincão, l'attaquant portugais, première action, premier tir directement face à des défenseurs marseillais qui étaient totalement apathiques. Et donc du coup, l'Olympique de Marseille va devoir courir après le score, sachant, vous l'avez dit Hélène, que les Marseillais, déjà défaits 2 fois, eh bien, doivent s'imposer pour garder un espoir de se qualifier pour les 8e de finale. Pour l'instant donc, c'est mal parti. Et puis c'est l'occasion aussi de vous dire qu'on suivra la deuxième mi-temps en intégralité dans Europe 1 Sport tout à l'heure à partir de 20h. 1-0 donc pour l'instant, 7 minutes de jeu ici au Vélodrome, 1-0 pour le Sporting face à l'OM.
Aïe, évidemment vous notez informé. Si l'Olympique de Marseille égalise, Jean-François Pérez en direct du Vélodrome pour Europe 1.
C'est officiel, l'État qui possède 84% d'EDF a lancé le processus de renationalisation. Une offre a été déposée auprès de l'autorité des marchés financiers à 12 euros l'action. Une opération chiffrée à 9,7 milliards. Les marchés financiers justement, Claire Lemaître de boursier.com, bonsoir.
Bonsoir Hélène.
Une remontée spectaculaire à Paris.
Oui, très forte hausse, plus 4,2%, 6039 points, c'est impressionnante pour le CAC 40 qui a souffert récemment. Il a chuté de 6% au mois de septembre et ce soir, eh bien, les investisseurs espèrent une accalmie dans la remontée des taux d'intérêt. On a donc des valeurs qui s'envolent à Paris. AXA et Alstom grimpent de plus de 7%, plus 6,4% pour le géant du luxe LVMH. Et le mouvement est le même partout en Europe. Francfort bondit de 3,8%, plus 2,7% pour Londres, plus 3,7% pour Amsterdam. Et le CAC 40 grimpe donc de 4,2%, 6039 points ce soir.
Merci Claire Lemaître.
C'était La Bourse avec la Caisse d'Épargne. 3000 experts en région aux côtés des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous être utile.
Et merci beaucoup Hélène Zelani, à demain.
À demain.
Le ciel.
Plein soleil sur votre cuisine de rêve. La météo avec Cuisine Référence, la référence des cuisines équipées sur mesure.
Allez Marlène Durel, demain le temps sera ensoleillé dans la plupart des régions.
Et oui Raphaël, des conditions calmes, parfois bien grises au petit matin, il faut le dire, hein, mais une fois les brouillards et grisailles dissipés, la journée s'annonce ensoleillée sur les trois quarts du pays, disons-le. Je vais plutôt m'arrêter sur les régions concernées par un temps plus variable, direction le nord-ouest. Beaucoup de nuages vont circuler entre les Hauts-de-France, la Normandie, les Pays de la Loire et la Bretagne. Perturbation qui va arriver, mais elle sera freinée dans sa course. Hein. Elle va apporter quand même un petit peu de pluie en Bretagne, en basse Normandie. Le vent aussi va avoir tendance à se renforcer et puis les éclaircies reviendront sur l'ouest de la Bretagne en journée. Côté Méditerranée, avec un petit peu de vent marin, les régions côtières seront parfois envahies par les entrées maritimes. Donc vous savez, ces nuages hein, bas, compacts, notamment dans le Languedoc-Roussillon et qui seront assez tenaces. Ces nuages ont laissé peu de place aux éclaircies.
Et ça sera aussi la journée la plus chaude de la semaine.
Absolument Raphaël, les maximales continuent leur progression, on sera au-dessus des normes saisonnières. On attend, écoutez bien, jusqu'à 29 degrés au pied des Pyrénées, localement 30, hein, c'est possible. À Tarbes par exemple, 29. Il fera 28 à Issoire, à Agen, Cahors, 27 à Bordeaux, 26 à Ajaccio et Limoges, 25 à Lyon, Strasbourg, 25 également à Bourges. On attend 24 à Marseille, 23 à Reims, 22 à Paris, 20 à Lille, 21 à Rennes ou encore 17, c'est la mini du côté de Cherbourg.
Merci Marlène Duret qu'on retrouve pour un nouveau point météo à 23h sur Europe 1. C'est à suivre. Nous allons revenir sur ce dont nous parlions dans le journal d'Hélène Zellani, cette séance électrique houleuse à l'Assemblée nationale. Il y avait les questions au gouvernement avec de nombreuses affaires à gauche, mais aussi au sein de la majorité. Nous serons avec nos commentateurs d'un soir, lui aux haltères, Anne-Charlène Bézina et Guylaine Hautenemer. A tout de suite sur Europe 1.
19h, 20h.
Raphaël Delvolvé.
On en parle.